18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est un plaisir. Un plaisir, évidemment, qu'on va retrouver jusqu'à 19h ensemble, puisque au sommaire de cette émission, eh bien, tout simplement, ce qui vous attend, ce qui nous vous réservons. Tout d'abord, il est bien riche ce programme. Direction le Qatar, avec, vous savez, le partenariat de l'association Sport à Vie et les jeunes des quartiers qui seront avec nous depuis Doha. Ils seront là dans une poignée de minutes. Et puis ensuite, Saïd Amouche, le président de la fondation Mosaïque Arache, organise un big événement. Ça se passe à Bercy. Il sera avec nous pour nous parler de son enjeu, et évidemment, mais bien sûr, surtout des discriminations qui persistent. Ensuite, nous irons nous intéresser à vous, au 01 53 48 3000. Pardon, parce que tout simplement, le député Adrien Quatennens, on pose la question, nous ici à Beurre FM, dans Les Informés, sur, évidemment, dans Les Informés sur Beurre FM, je voulais dire, question très simple, le député doit-il rester, évidemment, à l'Assemblée nationale? La question qu'on se posera tous, puisque vous savez que son ex-femme, eh bien, elle est revenue avec, évidemment... d'autres nouvelles concernant les violences conjugales. Et puis ensuite, le face-à-face, les débatteurs influenceurs seront avec nous tout à l'heure, en direct, trois débatteurs qui viendront confronter leur point de vue sur les sujets qui ont secoué la journée. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. C'est parti, toujours dans la joie, la bonne humeur. Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et direction le Qatar, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30. Et Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Direction le Qatar pour la vivre, pour vous faire vivre la Coupe du Monde.
Les Informés, la Minute Coupe du Monde avec Sport à Vie.
Et avec Sport à Vie, vous le savez, c'est en direct avec Samira Djouadi. Bonjour ma chère Samira.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Ravi de vous retrouver.
Nous aussi, nous sommes ravis de vous retrouver. Quelle est l'ambiance en ce moment depuis que vous vivez cette Coupe du Monde, justement, en direct à Doha?
Eh ben, super ambiance, surtout depuis que on a gagné le premier match.
Exact. Donc, je peux vous beau
dire
match.
Que les Français, un beau match. Et je peux vous dire que les Français ici, c'est l'euphorie totale. Quand on croise d'autres nations dans les transports en commun, tout le monde nous applaudit. Donc vraiment, super ambiance. Super ambiance.
Alors aujourd'hui, nous allons parler à quel jeune, justement, de l'association Sport à Vie, quel est son prénom, mais surtout, ils sont combien à intervenir ce soir dans cette émission spéciale Les Informés, vous le savez, et on vous fait vivre la Coupe du Monde avec le regard des jeunes reporters.
Alors aujourd'hui, c'est le grand Nassim qui va t'expliquer un peu ce qu'il a vécu ces derniers jours, et puis surtout son ressenti. Allez Nassim, c'est à toi.
Nassim, et d'ailleurs je voulais vous demander des nouvelles Samira, comment va le président de l'association Sport à Vie?
Bah, ça va mieux là, il est en arrêt jusqu'à vendredi avant de faire le test Covid pour s'assurer qu'il n'a plus de Covid.
Bon, bah, on lui souhaite un bon rétablissement s'il nous écoute ce soir.
Merci.
Nassim, bonsoir. Merci, mon cher Nassim.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Nassim, alors tu as quel âge et évidemment tu es en direct avec nous à Doha?
J'ai 14 ans moi.
Et tu es au lycée?
Non, je suis au collège en troisième et je viens des Ulysses.
Aux Ulysses?
Oui, aux Ulysses. Au
collège. Alors on t'écoute Nassim, le grand Nassim comme t'appelle Samira. Alors comment tu vis cette Coupe du Monde à Doha en ce moment? Comment tu as passé cette journée mon cher Nassim?
Je la vis super bien cette Coupe du Monde à Doha. On passe d'énormes bons moments. Ça se passe très bien, il y a une bonne ambiance. Je le vis très très bien.
Quel était le programme aujourd'hui, Nassim?
Aujourd'hui, on est parti sur un site archéologique.
Oui.
À Zaboura. C'est tout.
Et c'était comment?
On était parti voir le match de la France.
La France. Et alors, c'était comment? Comment tu as vécu ce match de l'équipe de France?
C'était un super match. La France l'a emporté 4-1. Ce premier match, c'était superbe.
C'était super.
Il y avait une bonne ambiance. Même dans le métro, quand on allait, c'était une bonne ambiance.
Oui.
On a chanté pendant tout le trajet. C'est super. Hein.
Quel est ton joueur préféré au sein de l'équipe de France, Nassim?
Mon joueur préféré, moi, c'est Karim Benzema, mais il ne joue pas car il s'est blessé.
Oui, c'est vrai. C'est bien dommage. Hein. C'est bien dommage que Karim Benzema ne soit pas, évidemment, présent durant cette Coupe du Monde. Et Mbappé?
Ouais, c'est dommage. Ouais, Mbappé, très, très fort joueur. Très, très bon joueur aussi.
Ah, on a été coupé par, nous allons la rappeler, donc depuis la Doha. Je vous ai dit, la liaison est parfois compliquée avec les jeunes de Sportavi et Samira Djouadi qui est avec nous en direct, vous le savez, à Doha. Les liaisons sont parfois extrêmement compliquées. On a beaucoup de mal, hein. C'est parce qu'évidemment, les lignes sont encombrées. C'est aussi la Coupe du Monde et c'est aussi, évidemment... les directs qu'on vous fait vivre. En attendant, vous savez, de récupérer justement Samira Djouadi, nous allons faire le jingle de fermeture et on se retrouve avec l'interview du jour.
Vibrez au rythme de la Coupe du Monde sur Beurre FM avec le soutien du ministère chargé de la ville.
Et c'est parti pour l'interview.
Les informés. Les informés. L'interview.
Et c'est avec Saïd Amouche, le président de la fondation Mosaïque RH. Bonjour mon cher Saïd Amouche.
Bonsoir Adil, bonsoir à tout le monde.
Comment ça va mon cher président de la fondation Mosaïque RH? D'abord vous vivez cette Coupe du Monde, puisqu'on parlait de la Coupe du Monde, nous étions en direct avec des jeunes des Ulis justement.
Ouais. Non, c'est un très beau moment, et puis il faut pas oublier que la Coupe du Monde, c'est aussi une manière de découvrir en fait d'autres mœurs, d'autres cultures, et voilà, c'est aussi un facteur d'ouverture sur lequel on doit être. L'intégration, elle se fait aussi dans toutes les directions. Hein.
Saïd Amouche, monsieur le président de la Fondation RH, vous organisez un événement majeur, justement, qui se déroule à Bercy, avec la présence et l'ouverture de monsieur le maire, Bruno Le Maire, donc, et puis extrêmement des personnalités, mais également aussi, vous savez, une thématique. Et plus que jamais, cette question qui persiste, hein, on en parlait, la question de l'inclusion, de la diversité, mais également aussi l'économie. Alors, monsieur le président, aujourd'hui, dans quelle, évidemment, cette thématique qui s'inscrit à Bercy, dans quel registre elle s'inscrit, justement ?
C'est l'inscription qui ça s'inscrit dans une logique de massification. Nous, on pense qu'aujourd'hui... la jeunesse qui habite les quartiers, la jeunesse qui est d'origine sociale défavorisée ou celle qui même est aujourd'hui un peu à l'écart en fait des centres-villes, elle a aujourd'hui envie de réussir par le travail, elle a envie en fait d'être reconnue par ses qualités, ses compétences, sa volonté de s'inscrire dans une logique de réussite, et il faut que ça se sache. Et aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui existent,
oui,
qui touchent des dizaines de candidats par-ci par-là. Mais aujourd'hui, la logique, c'est comment on fait passe, comment on peut industrialiser la rencontre entre toute cette jeunesse qui a envie de travailler, qui a envie de réussir leur projet entrepreneuriaux, et puis ce monde économique qui est, il y a 20 ans, très, très, très fermé en fait à cette question-là, et qui s'ouvre de plus en plus. La preuve, c'est 70 entreprises qui vont être au rendez-vous au ministère de l'économie, qu'on a été chercher, qu'on a réussi à convaincre, à ouvrir leur processus de recrutement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ils ont mis 4000 postes sur la table, sur lesquels ils s'engagent à recruter des jeunes des quartiers.
4000 postes, c'est pas mal. Alors ça se passe le 29 novembre prochain, et je crois bien que c'est la seconde édition qui se déroule au ministère, donc à Bercy.
Ouais, c'est ça. Nous, on pense que les discriminations doivent se traiter d'abord par des solutions économiques. C'est un sujet économique avant d'être un sujet social. Et c'est pour ça qu'on a décidé, on a voulu, en fait, faire ce sommet. Il n'y a pas de raison que sur nos sujets, on n'organise pas aussi des sommets économiques comme d'autres peuvent le faire à travers d'autres logiques d'investissement ou de développement économique.
Dites-moi, mon cher monsieur le président de la fondation justement Mosaïque RH, vous parlez dans ce second sommet de l'inclusion économique, mais également aussi vous venez de nous annoncer 4000 offres d'emploi qui sont en direction des quartiers populaires. Ça se traduit comment? Ça veut dire quoi, Saïd Amouche?
Alors ça veut dire qu'à un moment donné, on a été convaincre des directions générales, des DRH groupes, et on y en retrouve en fait des boîtes plutôt prestigieuses comme Lacoste, Adidas, Sanofi, Accenture, PwC, KPMG. Et on a rencontré tous les dirigeants de ces entreprises-là pour leur dire, écoutez, maintenant, ça fait des années qu'on vous explique qu'il y a des talents dans les quartiers, maintenant il faut passer à la vitesse supérieure. Est-ce que vous êtes d'accord pour recruter d'une manière massive? Est-ce que vous êtes d'accord pour les rencontrer? Est-ce que vous êtes d'accord pour former vos collaborateurs sur ces sujets-là et faire en sorte qu'ils recrutent le plus possible? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous fixer des objectifs quantifiés, 10%, 15% de votre politique de recrutement? Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre ça en place? Et les gens signent, ils sont OK, et ils publient automatiquement en fait tous les postes qui sont ouverts, et derrière, nous, on a une équipe de professionnels qui va regarder en fait un peu comment ça va se passer, qui vont recommander les candidats, évaluer les compétences, donner des conseils, coacher, parce qu'il faut aussi se préparer en fait à la rencontre. Donc ça, c'est le premier sujet, et tous ces postes sont sur une plateforme qui s'appelle Mosaïque Talent avec un S.com. Mosaïque Talent, M-O-Z-A-I-K, Talent, T-A-L-E-N-T-S.com.
C'est très important ce que vous nous dites ce soir, c'est très important. Ça veut dire que dans toute la France, celles et ceux qui vous écoutent ce soir doivent aller sur cette plateforme Mosaïque RH. Hein.
Voilà, c'est gratuit. Vous avez la possibilité de vous inscrire très rapidement en 3 minutes. Et derrière, on vous propose la possibilité, même si vous n'avez pas de CV, de passer des tests de personnalité pour qu'on puisse apprécier en fait votre profil en fonction de vos aptitudes et vos qualités comportementales plutôt que simplement s'intéresser à un diplôme ou à une expérience professionnelle. Aujourd'hui, les diplômes et l'expérience, c'est des vecteurs qui génèrent la discrimination, on le sait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les hommes, les individus, les personnalités, ceux qui veulent réussir, et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir ensuite recommander les compétences de ces profils pour que les entreprises puissent diversifier leur recrutement à terme. Et ça, c'est important, mais on fait aussi autre chose pendant cette journée au sommet de l'inclusion.
Justement, Saïd Amouche, Monsieur le Président, je vais vous poser la question dans le cadre de cette seconde édition de ce fameux sommet de l'inclusion économique. C'est 10 plénières, 12 ateliers, des rencontres avec des entrepreneurs. Pour convaincre quoi finalement et qui?
Alors, en fait, pour nous, il y a d'abord un grand combat qui est le changement de mentalité et la déconstruction des stéréotypes. Chacun a des stéréotypes, on a tous des stéréotypes. Les candidats ont des stéréotypes par rapport à des boîtes, et les boîtes, les recruteurs, ont des énormes stéréotypes par rapport à cette jeunesse. Donc on va passer toute la journée à montrer en fait des entrepreneurs qui ont réussi, des cadres dirigeants. On donne la parole par exemple à Fatalash Arshaf, qui est directeur des ressources humaines chez le groupe Mousseter. On donne la parole à Majda, la nouvelle directrice des ressources humaines chez Sodexo France. On donne la parole à des gens qui ont des profils atypiques, mais on va aussi mettre en lumière des entrepreneurs qui vont venir présenter en fait leur projet, et on va leur proposer, à l'issue de cette mise en visibilité, un prêt à taux zéro qui est avec un financement à la hauteur de 100 000 euros en fin de journée. Donc on va investir 100 000 euros à taux zéro sans caution. Et ça, c'est des actions très concrètes qui vont aider les entrepreneurs à se développer, à financer leur trésorerie, à acheter du stock. Et ça, c'est très important de le faire.
Eh ben, c'est une belle mesure que vous venez de nous annoncer. En quelques secondes, mon cher Saïd Amouche, Monsieur le Président, c'est ceux qui sont intéressés, qui veulent se rendre dans ce sommet. Ça se passe où, comment, à quelle heure et comment doit-on s'y prendre?
Alors, c'est à la fois un sommet qui a lieu physiquement au ministère de l'économie. Il faut aller sur le site sommet de l'inclusion économique.com et s'inscrire. On a déjà 7000 personnes qui sont inscrites, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a aussi la possibilité de suivre cet événement digital parce que en réalité, on n'est pas obligé de se déplacer. Tout est retranscrit et diffusé en direct. Je voudrais aussi évoquer un truc très original qu'on a réussi à faire cette année, c'est qu'on a plus de 30 directeurs généraux ou directrices générales d'entreprises qui vont passer une heure avec des candidats, avec des gens qui cherchent du travail, pour justement créer un cadre un peu improbable de discussion et faire en sorte qu'on apprenne tous à mieux se connaître.
Saïd Amouche, merci infiniment. On souhaite un beau succès justement à ce sommet de l'inclusion économique, la seconde édition qui se déroule au ministère de l'économie à Bercy. Merci Monsieur le Président de la Fondation RH.
Merci à tous. Bonne soirée et au 29. On vous attend.
Exactement. Rendez-vous le 29, c'est noté. Et puis cette offre de 4000 emplois. Ça, c'est beau. C'est magnifique. Évidemment, si ça vous intéresse, toutes les infos sont données sur le site de Mosaïque RH. Allez, on marque une pause, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, vous le savez, c'est vous au 01 53 48 3000. Je voudrais vous poser une question. Partout en France, je vous attends évidemment. Vous savez, l'affaire Quatennens, l'affaire d'Adrien Quatennens, le député, qui continue de faire des vagues, qui continue de faire du bruit. Eh bien, je voudrais vous tendre la main parce qu'on en a parlé, y compris la toute semaine dernière. Vous le savez, sur les violences physiques et psychologiques. Lui, justement, il y a des nouvelles accusations de violences physiques et psychologiques de l'épouse du député. Eh bien, Adrien Quatennens, on dit qu'il ne participera pas aux activités de son groupe, mais en revanche, la question se pose, doit-il, peut-il rester au sein de l'Assemblée nationale? C'est une vraie question, les amis. Hein. C'est vrai que c'est embarrassant. Est-ce qu'il embarrasse, hein, désormais? Je vous pose la question, deux questions. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit demander à Adrien Quatennens de rendre son tablier, évidemment, de rendre sa casquette de député, de démissionner? Et puis, parce que est-ce qu'il est légitime toujours aujourd'hui? Est-ce qu'il peut assister à l'Assemblée nationale en étant légitime, en se disant, évidemment, avec cette affaire concernant son ex-épouse? 01 53 48 3000. On parle de violence conjugale ce soir. Je vous attends. Je ne bouge pas, évidemment. On attend le premier appel venant, donc, je ne sais pas de quelle région de France. 01 53 48 3000. Évidemment, la question est très simple. Quand on est député de la République, est-ce qu'on peut rester au sein de l'Assemblée nationale? Évidemment, après ces récentes, ces nouvelles accusations de son ex-femme concernant les violences physiques ou psychologiques. Est-ce qu'il doit rester à l'Assemblée nationale ou est-ce qu'il doit quitter l'Assemblée nationale? Tout simplement. 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite. Le premier appel, Anthony vous attend au standard. 01 53 48 3000, pardon. Ou alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit lui demander, parce qu'il peut le faire, doit lui demander de quitter LFI, la France Insoumise, doit quitter l'Assemblée nationale, est-ce qu'il peut être encore légitime sur cette question-là? C'est vrai. Vous tapez votre femme, de nouvelles accusations tombent concernant des violences psychologiques, la question se pose. C'est-à-dire, clairement, est-ce qu'il a encore cette légitimité d'être présent à l'Assemblée nationale, même si, évidemment, on est en pleine procédure? Eh bien, je vous pose la question. 01 53 48 3000. Je vous attends tout de suite au standard, partout en France, 18h25, pardon, avant de retrouver Pascal Boniface. Quel est le premier appel, mon cher Anthony?
Pour l'instant,
personne, écoutez, hein. On vous attend, chers amis, qu'est-ce qui se passe là? On lance la machine, c'est ça, tout doucement? Eh ben, on vous attend au 01 53 48 3000, concernant donc les violences conjugales.
Tu penses qu'un petit jingle pourrait les faire partir?
Allez, c'est parti, jingle!
01 53 48 3000. Et les informés vous donnent la parole.
Et en attendant donc vos appels au 01 53 48 3000, est-ce qu'il doit quitter l'Assemblée nationale, justement? Et puis, si vous avez d'autres sujets aussi, notamment, vous le savez, que vous souhaitez évoquer, vous êtes les bienvenus au 01 53 48 3000. En attendant, tout de suite, je vais présenter, eh bien, nos débatteurs influenceurs. Comment ça va, mon cher Philippe Nadji Bouriaki, l'élu au sein du Conseil régional?
Conseil régional.
Vous êtes porte-parole aussi.
Co-porte-parole nationale de l'écologie au centre et depuis hier, nouveau garde du corps de Valérie Pécresse, si vous avez suivi le collectif Ibiza. Non, mais ça, c'est une boutade.
Moi, c'est une boutade, oui.
Non, j'étais invité comme beaucoup d'élus. Elle a fait un point d'étape pour dire hier soir, en marge du salon du congrès des maires de France. Donc, on était plusieurs. Donc, c'était un truc privé. Et le collectif Ibiza a été averti par d'autres élus, plutôt à sensibilité écolo. Et donc, ils sont venus faire un happening. Et voilà, chasse naturelle et revenir au galop, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire puisque j'étais le garde du corps de Yannick Jadot et du parti pendant 22 ans. Et donc, je me suis mis tout de suite, immédiatement, quand j'ai vu qu'il y avait une anomalie entre les deux personnes dont j'ai reconnu, puisqu'il y a un échange ultra courtois où je la salue par son prénom, elle me salue par le mien. Et là, Valérie, elle comprend que c'était des militants écologistes et pas des usagers comme ils s'étaient présentés. Et voilà, ils ont fait leur truc. Il y avait un échange vraiment bon enfant. On les a raccompagnés gentiment, vraiment. Après, ils sont changés. Ils
ont ça vous colle à la peau, ça. Hein
ouais, bien sûr. Mais bon, j'ai eu une
clochette. Tiens,
j'ai eu une cloutonie après ça, puisque on m'a appelé en me disant ouais, visiblement, ils ont été violentés ou ils ont été traînés par le bras, etc.
Pas du tout.
Bah, sinon, les vidéos auraient tourné en boucle.
Exact.
C'est pas le Rassemblement National. Donc,
allez, 0153483000, je vais accueillir Slimane. Slimane qui nous appelle du 78.
Et bah, il
Slimane,
bah,
Slimane, ah, Slimane, Slimane, faut pas chanter, mon cher Slimane.
Garde du corps, il a eu peur.
Bah oui, garde du corps, il a flippé. Mais Slimane, 0153483000. Akli Melouli, bonsoir.
Bonsoir. Moi, je
maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne.
Voilà, et je garde mon corps au chaud, au bureau, tranquille.
Tout se passe bien.
Moi, ça va, tout se passe bien. Moi, j'ai pas de vie mouvementée comme Monsieur Bouriaki. tranquille,
ça veut dire quoi, ça?
Ouais, parce de berger berbère, quoi, dans les montagnes ça, de Kabylie, tranquille, voilà.
J'adore.
Nous, on observe
j'adore.
L'horizon, on voit, on laisse venir. Il faut toujours regarder les choses avec calme.
Ouais,
ça
ouais.
finit par se décanter à un moment ou à un autre, non?
Vous avez pas faux. Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est
Jimmy Dalidou à vos côtés, comment ça va, Jimmy Dalidou?
Bonsoir à tous.
Bah, comment ça va, Jimmy?
Ça va tranquillement.
Ouais, bon, représentant CGT, mais également auteur.
Toujours.
Qu'est-ce que vous prévoyez?
À quel niveau?
Aucune manif là pour le moment, non? Ça y est, là, on vous
non,
entend plus. Hein.
Ça va se calmer jusqu'à la fin de l'année parce qu'il va y avoir les velléités des fêtes de fin d'année, certains congés, pas mal de congés. Donc, ça va certainement se booster d'ici début de l'année.
Même les fêtes, il a dit des velléités. Même les fêtes.
Non, mais il y a un truc là, lundi matin.
C'est pas des velléités, des fêtes, c'est
des velléités. Il y a un truc, les gens fêtaient Noël tranquillement.
Lundi matin à 9h.
Les velléités, c'est vrai, il a raison de vous dire la poser la question.
À part les camarades d'Air France qui ont décidé de poser un prévu.
Oui, c'est vrai.
D'accord, non, mais les fêtes, c'est pas des velléités, c'est des bons moments.
Bah, des velléités de bons moments, oui, tout à fait.
Des velléités. Non, mais il y a un truc lundi matin à 9h à la maison de la RATP avec. Les copains de
alors, tu le conseilles d'éviter les vols Air France.
Bah, ceci étant dit, on s'adapte au rapport de force. C'est le travailleur qui décide. Si le peuple travailleur décide de partir, nous, on part.
Ouais, absolument.
Mais
voilà.
Donc, du coup, il ne faut pas prendre Air France, c'est ça que tu es en train de nous dire, Jimmy?
Bah, moi, je ne prendrai pas l'avion, mais évitez de prendre Air France au mois de décembre.
Évitez de prendre l'avion.
Ouais. Jimmy, il a dit, je ne prends pas l'avion, moi, j'y vais à la nage.
Allez-y, à la
nage. Allez, messieurs, tout de suite, il est 18h, bientôt 30, et c'est parti. Tout de suite, comme d'habitude le jeudi, vous le savez, c'est le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec le président fondateur de l'ERIS. Bonjour, Pascal Boniface.
Bonsoir Adil.
Comment ça va, vous allez bien?
Bah, impeccable, un beau mondial qui commence, donc tout est satisfaisant.
Vous avez décidé aujourd'hui, ce soir, dans les informés, ce jeudi, de parler de la victoire d'Arabie Saoudite, mais également aussi contre l'Argentine et la relation du Qatar. On vous écoute, à vous.
Oui, pour ceux qui pensent qu'il ne faut pas mélanger sport et politique, eh bien, il y a eu quand même quelques démentis récemment. Déjà, la présence du prince héritier d'Arabie Saoudite, MBS, Mohamed Ben Salman, dans la tribune à côté de l'émir du Qatar pour le match d'ouverture. C'est quelque chose de significatif,
oui.
Puisque l'Arabie Saoudite, rappelons-le, avait organisé un blocus du Qatar en 2017. Blocus qui a été levé en 2021 parce qu'il a échoué en réalité, mais les relations étaient quand même plutôt fraîches. Et là, ça se réchauffe un peu, donc il vient pour l'inauguration du mondial pour montrer qu'il est là, et ensuite il assiste au match de son équipe. Lors du match d'ouverture en 2018, les Saoudiens avaient été sèchement battu 4 ou 5-0 par l'équipe russe, là, eh bien, ils ont réalisé l'exploit de battre l'équipe d'Argentine, qui sortait de 36 matchs sans défaite et qui était l'un des favoris. Et l'Argentine, c'est quand même Messi, beaucoup de joueurs de classe. Et donc, c'est un exploit qui rappelle d'ailleurs un peu l'exploit du Cameroun, qui avait déjà battu l'Argentine en 90 lors du match d'ouverture. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu pendant aussi le match de l'Arabie Saoudite? Eh bien, l'émir du Qatar, Tamine, portant une écharpe aux couleurs de l'Arabie Saoudite. Et donc, ça signifie un peu le rapprochement. Et la victoire de l'Arabie Saoudite a été vue comme la victoire de l'ensemble du monde arabe. De même que récemment, tous les pays arabes ont soutenu le Qatar, qui était critiqué dans les pays occidentaux, pour recevoir le mondial. Donc, on voit que le football a permis de resserrer les liens entre les pays arabes. Et l'exploit saoudien était tellement fort, ils vont se rappeler que ça a été lieu à Doha pendant la Coupe du Monde au Qatar. Et donc, c'est quand même aussi un marqueur. Alors, je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes entre Riyad et Doha, mais quand même, on sent que ce rapprochement qui est déjà en cours va être accéléré par ce match. Donc, on voit que finalement, il y a une diplomatie du football, que le football peut servir à rapprocher les peuples, et ça va être une bonne occasion, effectivement, pour aller un peu plus loin. On a remarqué qu'il n'y avait ni l'émir, ni le chef d'État du Bahreïn et des Émirats Arabes Unis, mais leurs équipes ne sont pas qualifiées. Et il est vrai que ces deux pays sont moins réconciliés avec le Qatar que ne l'est l'Arabie Saoudite.
Et je vous confirme, vous avez bien raison, j'ai eu beaucoup d'appels, notamment des quelques contacts qu'on a dans les pays arabes. Et c'était la fête, effectivement, lorsque la victoire a battu l'Argentine. Ils l'ont vécu comme, évidemment, une solidarité attachée à l'Arabie Saoudite. Vous avez raison, c'est très juste, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de messages dans ce sens. Bravo pour ce billet d'humeur, mon cher Pascal Boniface.
Merci Adil et à jeudi prochain.
À jeudi prochain sans faute, prenez soin de vous, 18h33 bientôt, 0153483000, le standard reste ouvert pour parler des violences conjugales mais également aussi de l'affaire Katniss et des nouvelles accusations qui sont portées donc par son ex-femme. La question est simple et courte, faut-il qu'il continue évidemment, enfin doit-il rester présent au sein de l'Assemblée nationale? La question est simple, ou doit-il quitter l'Assemblée nationale? 0153483000, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après, à tout de suite avec le face à face.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h38, si vous venez de nous retrouver, sachez-le que demain nous consacrerons eh bien, une émission spéciale consacrée donc aux violences conjugales, puisque c'est la journée mondiale des violences conjugales, donc on en parlera ici même sur Beurre FM, et Beurre FM a décidé de s'inscrire dans ce rendez-vous. Le face à face, c'est parti.
Les informés, le face à face.
Le face-à-face avec Hakim Elouli, maire adjoint sur Benoît-sur-Marne, avec Jimmy Dalidou, le représentant CGT, mais également auteur. Et enfin, notre conseiller régional écolo, oui, Philippe Nadji Bouriaki. Messieurs, nous allons parler de la présence d'Emmanuel Macron avec les maires de France qui jouent l'apaisement. Alors, le chef de l'État, est-ce qu'il n'est pas en train de faire oublier les relations tendues qu'il a eues durant le premier quinquennat, puisqu'il a décidé de revoir son discours et surtout de jouer la carte de l'apaisement? Hakim Elouli.
Alors,
qu'est-ce qu'il cherche, Emmanuel Macron?
Il cherche surtout, il a compris l'importance des élus locaux. Je pense qu'il n'est pas non plus idiot. Et vous me dites, il est venu jouer la carte de l'apaisement. Dans la période de crise où on est, il manquerait plus qu'il vienne les insulter. Parce que, en même temps, et le problème, c'est que les élus locaux sont pas dupes non plus. Aujourd'hui, vous avez bien vu que on a une facture de la énergétique qui va exploser. Les villes, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions qu'elles prennent en fonction de la grosseur et d'autres beaucoup plus. Donc, à un moment donné, c'est pas prévu dans leur budget. Donc, il y a ça qui va se rajouter à la Covid. Donc, les élus locaux, en ce moment, ils ont vraiment besoin, effectivement, de revoir les aides de l'État et de voir comment on va faire. Parce que ces fractures énergétiques, on peut pas continuer à imposer les gens. Il va falloir trouver d'autres solutions. Donc, à un moment donné, soit il vient et il a des propositions à faire, parce que sinon, c'est bien beau d'apaiser, mais l'apaisement, c'est pas d'apaiser les élus, c'est pas un dialogue entre lui et les élus, c'est un dialogue entre lui.
Il faut faire quoi alors si c'est pas l'apaisement? Il faut bien qu'il aille récupérer, évidemment, Adil, là il joue la carte territoires.
Il doit faire des propositions, il doit accompagner ses villes. Les villes ne pourront pas supporter le poids de la fracture énergétique et le poids de l'énergie, comme les habitants ne pourront pas le faire. Les habitants sont en grande difficulté. Donc à un moment donné, cette situation, il va falloir qu'on trouve, parce qu'elle est quand même exceptionnelle, j'espère qu'elle va pas durer, d'ailleurs ça c'est aussi ce que tout le monde attend, mais il doit trouver justement des solutions pour pas que ça dure, et il doit trouver des solutions pour répondre à l'urgence qu'on a. Il y a l'urgence climatique, mais il y a l'urgence énergétique aujourd'hui, là, cet hiver. Donc à un moment donné, et les villes, je vous dis, hein, une ville comme Emmen qui est une petite ville, c'est 1 million hein, qu'on doit trouver là, et qui n'était pas prévu au budget. Donc il y a des villes, c'est 3, des villes, c'est 5, et donc vous savez, c'est... Vous avez pas les... Donc il va falloir qu'effectivement les maires sont très mécontents, parce que eux ils ont ce problème à régler, et les élus locaux, et on l'a eu déjà pendant le Covid. Pendant le Covid, on n'a pas été compensé totalement. Donc on peut pas, les villes ne peuvent pas ad vitam aeternam compenser certaines carences ou compenser les difficultés.
Donc vous êtes en train de me dire que les maires sont en alerte, parce que vous faites référence au Covid, vous faites référence à la flambée des prix, vous faites référence à la crise énergétique.
Ils sont en alerte, ils sont en crise. L'alerte, ce serait, c'est pas une alerte. Les maires sont alertes, justement, le gouvernement, sur la situation et les difficultés qui s'amoncellent. Donc, à un moment donné, on peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. Et donc, l'État va falloir qu'il prenne ses responsabilités et qu'il fasse des propositions. Soit on revient, parce que quand vous avez tout, quand vous êtes dans un système néolibéral, où c'est l'argent qui dicte sa loi, on voit les limites du jeu. On l'a vu pendant le Covid, on le voit encore là. Donc, à un moment donné, il va falloir que, sur l'énergie, un pays qui ne maîtrise pas son énergie est un pays qui est en difficulté, qui est en crise. Donc il va falloir qu'on réfléchisse, c'est comme l'eau, c'est un certain nombre de choses, il y a des choses qui doivent être du service public. Donc il va falloir qu'on réfléchisse sur les nouveaux modèles de société qu'on veut et ce qu'on veut remettre au cœur des dispositifs. Et l'énergie, ça en fait partie.
Faisons un tour de table, Jimmy Dalidou et Philippe Nadji Bouriaki.
Oui, alors...
Sujet est très important, parce que c'est les maires quand même qui vivent. Et il a raison, Athlée Mélouli, de le rappeler.
Très important, parce que les maires sont pour le coup, les maires sont importants, parce que souvent, je pense notamment dans les petites communes, le maire est souvent proche, contrairement au gouvernement, souvent les maires, je pense, les aux petites communes sont souvent effectivement proches de leurs administrés. Non, mais en fait, par contre, je vois pas ça, je vois la position de M. Macron, je la vois pas comme une tentative d'apaisement. Pour moi, c'est carrément encore une fois, il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire l'enfant gâté de chez Rothschild, qui ne supporte pas la contradiction.
Vous en faites une obsession,
Non, mais c'est un enfant.
J'ai l'impression que vous en faites une obsession,
quand même. Je vais expliquer pourquoi.
Là, c'est le chef de l'État qui parle.
Je vais expliquer pourquoi. C'est effectivement un enfant gâté de chez Rothschild. Je vous rappellerai qu'il a même pas été, je crois que c'est le Congrès. Il a même pas été les voir pour leur au moins se présenter devant eux, tenir un discours, rendre des comptes, au moins ne serait-ce que faire son autocritique. Quand on est président de la République, on se doit de se présenter à l'AMF devant ses maires et faire son autocritique, essayer de résorber les contradictions avec les maires de France. Il a même pas été capable de le faire.
Ouais.
Et sur le point sur lequel je voudrais revenir.
Il veut faire oublier le premier quinquennat.
Non, mais attendez, il a quand même, même s'il a augmenté la DGF, la dotation globale de fonctionnement, je vous rappellerai que l'inflation, on attend une inflation à 7% qui va arriver. C'est-à-dire que les prix vont augmenter. Alors que les maires n'ont pas cessé de dire, vous me direz si je me trompe, mais il y en a combien qui ont dit que la DGF, c'est-à-dire concrètement la thune que l'État donne pour que les collectivités territoriales puissent fonctionner, à minima, ça ne suffira pas par rapport à l'inflation qui arrive, aux services publics. Tu l'as dit, effectivement, je suis d'accord. Les services publics n'existent plus. Les services publics ont été pulvérisés sur l'autel du profit et, vous voyez bien qu'il y a des maires qui aimeraient bien avoir des services publics convenables, qui aimeraient bien avoir des administrés qui puissent se soigner convenablement, prendre le train convenablement, accéder à un commissariat et au cas d'urgence, accéder à un service public. Et je finirai sur un dernier élément pour donner ensuite la parole aux camarades. C'est, pour moi, je réaffirme que pour ce président, la France, pour lui, en fait, c'est pas un pays. Pour lui, la France, c'est un porte-monnaie à ciel ouvert. C'est un porte-monnaie dans lequel le capital financier internationalisé peut piocher lui semble.
Bon, Philippe Nadji Bouriaki.
Gérard Larcher disait que le maire, c'était celui qui était à portée de baffe, l'élu le plus proche du peuple, parce que les autres, c'est vrai qu'ils sont pratiquement inaccessibles. Moi, je vois la région, on est 209 sur 12 millions d'habitants. Si je mets pas mon pin, ce conseil régional, personne ne sait qui je suis. Le président Macron, dans le premier quinquennat en tout cas, il a fait abstraction des corps intermédiaires. Il l'a fait pour le mouvement social. J'ai pas besoin de parler aux syndicats. Je vais parler au MEDEF et je vais faire passer mes réformes. Mais les syndicats, ils sont là, ils existent et ils sont importants dans le discours social. On peut pas nier. C'est pas que des gens qui s'opposent à tout. Ils ont aussi des solutions. Et donc faut aussi entendre ce qu'ils disent parce qu'ils représentent quand même des gens. Et puis sur le monde politique, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'avait pas été élu localement, donc il n'a pas d'ancrage local. Et on l'a bien vu au municipal, on l'a bien vu au régional, la déroute qu'ils ont pris. Donc il pensait faire abstraction de ce corps intermédiaire qui est les maires et les maires et les présidents d'interco, etc. Aujourd'hui, moi, je sors là, je sors du congrès, du 104e congrès de la AMF, Association des maires de France et président.
Beaucoup parlent de manque de considération. Quelques maires.
Écoute, la première ministre était là aujourd'hui, sur la tribune à côté du président Isnard, et donc elle a fait un discours plutôt dans le sens de l'apaisement, en disant que chacun devrait prendre aussi sa part, etc. Et les intervenants avant ont dit, écoutez, je crois que vous n'avez pas compris. Non simplement on est dans une situation critique, mais on est le premier maillon. Si nous, on saute dans ce maillon, c'est tout le reste qui saute. Parce que lorsque on a, et Akri l'a très bien résumé, une facture énergétique qui augmente d'un million, deux millions, trois millions, comment ils font les maires, hormis répercuter sur leur population via la taxe foncière ? Par exemple,
il n'y a pas que ça, il y a aussi les PV. Parce forcément, si tu perds de l'argent, tu augmentes les PV, par exemple.
Oui,
dans certaines collectivités territoriales, tu augmentes les PV à 135 euros pour essayer de remplir les caisses. parce que là, parce que t'as pas assez de thunes.
Électoralement, c'est pas possible de
par exemple, un exemple parmi d'autres.
Non,
hein,
mais, non, c'est pas un raisonnement en se disant, on va avoir une nouvelle recette en disant, mec, allez-y, allumez un max. Je pense que les mecs, ils allument, ils sont au max de ce qu'ils peuvent faire. Ils sont au max de ce qu'ils peuvent faire.
Comment acclimer le lit?
Bah déjà, vous avez une contravention à Paris, c'est 50 euros sur des, certains quartiers, ça peut aller, c'est 75 euros dans d'autres quartiers. Mmh. Et donc, et le stationnement, pour une heure ou deux dans certains quartiers, c'est 24, 25, 30 euros. Ça devient, tout devient un peu...
Alors c'est quoi alors Bobigny, que, comment c'est doit-on interpréter, évidemment, pour vous, hein, est-ce que c'est une opération de communication? J'ai entendu ça chez certains maires, à Clément Lully.
Bah, de toute façon, il n'avait pas d'autre alternative que de faire une opération de communication. C'est pour ça que je vous dis, on va voir s'il a entendu. Le problème, c'est pas de venir voir les gens. C'est comme les élus qui se déplacent et qui disent aux gens, qui font du populisme, ou qui disent, à un moment, les gens, ils ont besoin d'avoir une position. Concret. Une position concrète. C'est oui, c'est non, c'est quoi, c'est quelle couleur, et on va où? Là, la question, c'est, d'accord, vous êtes venu, vous avez dit, vous avez reconnu le travail, on fait quoi? Parce que le problème des gens, tout ce qu'on se raconte, nous, ce qu'ils veulent voir, c'est comment ils vont vivre et comment ils vont traverser l'hiver. Est-ce qu'ils pourront chauffer? On a des, en fait, les gens les plus en difficulté, c'est les gens qui ont les vrais passoires thermiques, c'est les gens qui ont plus de besoins. Mais ils n'ont pas le levier pour démarrer l'once d'un début de travaux, de quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on fait? Pour qu'effectivement, parce que aujourd'hui, le système français, il est basé sur la solidarité, Adil. Et on veut le comparer avec des systèmes qui ne le sont pas basés sur ça. Donc, soit on maintient cette solidarité qui a été maintenue, qui sort du Front Populaire, et d'ailleurs que d'autres gouvernements, y compris de droite, ont maintenu, de Gaulle, etc., la fibre sociale. Soit on rentre dans ce néolibéralisme où chacun pour soi. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, il est temps de savoir dans quel système on est. Soit dans l'un, soit dans l'autre. On ne peut pas jouer au zig à zag. Donc, maintenant, il faut dire clairement, et l'énergie, on doit maîtriser. On a des géants d'énergie en France, qu'on a bafoué, d'ailleurs.
Ceci étant dit, tu sais bien que l'énergie, c'est un problème national, voire international.
C'est ce que je dis. Tu sais quoi, on doit maîtriser. On a essayé. Quand il a fallu choisir un partenaire, on a choisi General Electric et non pas Siemens, qui était un partenaire allemand. L'Europe a du mal à se construire. Parce que, y compris sur son énergie, elle a du mal à construire des géants, alors que les géants énergétiques étaient, les boîtes étaient en Europe. Et ça, il y a effectivement aujourd'hui à revoir, et t'as raison de le dire, Jimmy, un certain nombre de nos positions vis-à-vis des relations internationales. Et je crois qu'il faut que la France soit la France et non pas afféodée à tel ou tel.
Absolument. Et le débat continue. Vous le savez, il y a une seconde affaire qui continue de faire polémique, c'est l'affaire Adrien Quatennens, le député, et son épouse, qui l'accuse, de nouveau, avec de nouvelles accusations, des violences anciennes et répétées. Alors, ça fait plonger quand même LFI dans la crise, Philippe Nadji-Bouayaki, tout ça.
Ouais, parce qu'ils ont créé.
Ah si, ça fait une grosse polémique là. Le ton change. Hein.
Ils ont créé un monstre à plusieurs têtes qui est l'écoféministe, féminine nazie. Donc là, je vais faire plein d'ennemis d'un seul coup et ils vont vouloir me tuer parce qu'il y a là-dedans, il y a le combat féministe que nous portons tous et toutes. Ça devrait être une obligation. Et t'as des extrémistes qui ont un combat contre les hommes et qui veulent flinguer tous les hommes. Maintenant, ils se retrouvent dans un truc où ils ont joué sur ça un maximum pour taper sur les gens du gouvernement et les gens de droite à chaque fois qu'ils avaient une affaire. Il y a juste aussi, c'est normal. Et maintenant que ça se retourne contre eux, ils font comment? Et là, ils sont un petit peu emmerdés. Ils sont emmerdés parce que Quatennens, c'était l'héritier. C'était l'héritier de Mélenchon. Et donc Mélenchon, là, son cœur, il est brisé. Et t'as Clément Tinotin qui est en train de jouer sa partition. Raquel Garrido qui a dit qu'effectivement, il y avait un problème. Moi, ce qui me gêne là-dedans...
Sauf que là, il y a des nouvelles accusations. Restons sur ça. Attendez, c'est important. C'est-à-dire que Céline Quatennens, elle l'a accusé, vous savez quoi, de violence physique et morale.
Alors, il y a ce qu'on appelle les accusations et les condamnations. D'accord? Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui me gêne, donc il y aura trois points, c'est que ça arrive au moment où il était censé revenir, après son arrêt maladie.
À l'Assemblée nationale.
Troisième point qui me gêne réellement, admettons, et je ne suis pas là pour faire l'apologie de la violence, je la condamne clair, net et précis. Je suis en train de dire que il y a un truc, même dans leur charte, et d'ailleurs je voudrais rappeler à Raphaël Rémy Leleux qui disait Quatennens démission, il y a la charte des Verts mondiaux par exemple, où il y a ce qu'on appelle la réinsertion. C'est-à-dire quelqu'un qui a commis un acte délictueux, il a sa peine, il paye sa peine, et on doit lui permettre de pouvoir se réinsérer, se racheter, et sûrement de bonne foi, et d'être au contraire un témoin vivant de ce qu'il ne faut pas faire. Elle est où cette fameuse rédemption?
Oui, et puis là, ce qui se passe,
ça n'existe pas.
Ce qui me gêne dans ces histoires,
Jimmy Dalidou.
Je prends quand même une base de principe. Quand même, c'est important de dire qu'effectivement, la question de l'émancipation des femmes est une lutte importante qu'on doit soutenir. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit soutenir les dérives qui sont utilisées par les politiciens et qui vont utiliser cette lutte qui est, ma foi, là, très importante, mais qui vont utiliser la question de la femme, alors je suis dans l'abstraction, la femme d'une manière générale, qui vont utiliser la femme et certaines femmes comme des armes politiques, des armes de destruction massive. Maintenant, ceci étant dit...
Je vous interromps 30 secondes. On me doit lancer la pub.
Ah, d'accord.
Et je vais vous dire une chose quand même, parce que cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, des violences physiques et morales à expliquer... La jeune femme
je voulais y arriver.
À l'AFP. A tout de suite, ne bougez pas. On va revenir sur ça.
Adrien.
A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h55 précisément, avec Akli Melouli, avec Jimmy Dalidou et enfin avec Philippe Nadji Bouriaki. Sujet de violence conjugale extrêmement important, ce sujet. Demain on en parlera. Émission spéciale d'ailleurs demain sur l'antenne, et on reviendra sur ce sujet puisque le sujet devient mondial demain et Beurre FM a décidé évidemment de s'emparer de la question. Je reviens sur cette déclaration. Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, des violences physiques, morales, a expliqué la jeune femme. Au cours de ces dernières années, j'ai voulu le divorce à 3 reprises. Et à chaque fois, sous la pression, je suis revenu en arrière. Bon, comment on doit interpréter tout ça ? Compliqué, hein, Jimmy Dalidou ?
Oui, alors, pour continuer sur ce que je disais, donc, il y a quand même une contradiction par rapport au cas Quatennens. Parce que, d'un côté, il y a le premier aspect de la contradiction. Monsieur Quatennens dit, par rapport à la gifle, qu'en fait, il a assumé, il a dit oui, effectivement, j'ai giffé, j'ai été loin, j'ai pété un câble.
Bon, il a répondu à Quatennens. Adrien Quatennens a répondu à ça.
Deuxième aspect de la contradiction, c'est de dire, maintenant, il dit qu'effectivement, il n'est pas coupable, il n'a pas agi de cette manière-là. Et donc, ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire, on a l'impression que, alors, moi, ce qui me gêne par rapport à la position de Sandrine Rousseau et de Monsieur Faure, c'est qu'ils ont bien dit, ils ont bien vu, ils l'ont dit, hein, il n'a pas été condamné. Il est suspecté, il y a un soupçon. Si tout le monde devait être éliminé de la politique ou du secteur dans lequel il y aurait plus personne dans ce pays, je veux dire, parce que dans les politiciens, si on devait éliminer ceux qui sont soupçonnés de corruption et de détournement de fonds publics, etc., il y aurait plus de politiciens en France. Ensuite, je reviendrai sur un élément important et je prendrai un exemple qui m'est arrivé moi personnellement. Encore une fois. Base de principe, il faut défendre la lutte de l'émancipation des femmes. C'est fondamental. Il y a eu Louise Michel, il y a eu des grandes dames qui se sont battues pour ça. C'est fondamental. Le problème qui se pose, c'est que la violence, elle fonctionne des deux côtés. Effectivement, quand un homme est violent envers une femme, violence physique et psychologique, il faut que ça soit condamné. Mais lorsqu'il y a des violences psychologiques envers des hommes et des violences qui sont émises par des femmes, ça doit être condamné aussi. Je prends un exemple concret. Mon meilleur ami, un Kabyle, il était marié avec une femme, il était avec elle depuis plus de 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont séparés, ça s'est plutôt mal passé. L'ordonnance de conciliation, je l'ai vue. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé face dans une situation où madame a baratiné. Appelons un chat, elle a baratiné. Elle a été dire que mon meilleur ami l'avait frappé, avait utilisé une arme blanche, etc. Compliqué, parce que la justice commence à s'inquiéter, ça commence à se mettre en branle. C'est la grande fille de mon meilleur ami qui a été au commissariat, très justement, qui a pris son courage à deux mains pour défendre son père, parce qu'elle était là, elle était présente lors de la scène. Et elle a tout simplement dit, avec des larmes aux yeux, presque, malheureusement, maman, elle a baratiné. Je ne sais pas ce qui se passe auprès de mes parents, c'est compliqué. Et vous voyez ce que je veux dire, et qu'est-ce qu'elle a eu un rappel à la loi, un simple rappel à la loi. Alors si ça s'est pas produit une fois, deux fois, c'est que j'espère que ça va pas devenir une habitude dans ce pays. Alors encore une fois, si Monsieur Quatennens par exemple est coupable, il faut qu'il soit puni. Mais il faut que s'il y a eu mensonge d'un côté et que ce mensonge est condamné, cette logique doit être étendue à tous les niveaux.
Il faut demain j'ouvrirai l'antenne et effectivement je voudrais entendre vos témoignages. Aklim Ouli, lui, on vous a pas entendu.
Alors moi déjà
sur l'affaire Quatennens.
Non mais sur l'affaire Quatennens, c'est surtout des affaires. Par rapport, puisque demain c'est la journée mondiale. Il ne faut pas sur ce demain, mais des violences faites aux femmes, de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a des principes. D'abord, un, il faut être ferme. Deux, l'exemplarité. Quand on est élu, on doit être exemplaire. Donc ça, c'est important parce qu'on préside aussi à travers des gens. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point, il faut aussi effectivement que la justice soit la même pour tous. Mmh. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de traitement d'une personne. Je pense que dans le cas de Katniss, effectivement, on a l'impression que quand il revient, on a l'impression qu'il y a un traitement qui serait disproportionné pour lui, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter. Hein. Et il y en a d'autres qui sont aussi soupçonnés de pas mal de choses et à qui on étouffe aussi les affaires. Donc il faut montrer, parce que dans une démocratie, le droit, c'est ce qui garantit à tout le monde la même justice. C'est ça qu'il faut défendre. Donc moi, je vous le dis, effectivement, s'il y a des choses, il faut... Et juste, que ce soit Katniss ou un autre, je crois que le droit doit s'appliquer de la même façon. Et quand on est député, et après on y viendra aussi pour Kéké, parce qu'on a annoncé un sujet là-dessus, quand on est député, on doit aussi être exemplaire. Quand on est élu, on doit être exemplaire. Après, il peut y avoir des drames, des conflits, on peut se tromper, on peut commettre des erreurs, on en commet tous, mais on doit payer pour ça, on doit juger, on doit être traité de la même façon. Je crois qu'il y a aussi, pour certains, un traitement médiatique qui est supérieur pour d'autres, parce qu'on veut casser des logiques, des dynamiques, donc faut pas non plus être naïf. Mais ce qui ne veut pas dire, et je dis, et moi je crois que la parole des femmes, même si effectivement il faut fouiller, et que parfois ce truc, elle doit être prise en compte. Comme la parole de l'enfant. On ne doit pas, c'est parce que c'est comme ça qu'on crée des impairs.
Alors, je vous pose une question.
Alors, je finis. Je voudrais saluer aussi l'Assemblée nationale qui a adopté effectivement la loi qui permet d'inscrire le droit à l'avortement isas dans la Constitution française. Parce que ça aussi, ce sont des avancées qu'il faut saluer et souligner.
Messieurs, l'affaire Katniss, clairement, est-ce qu'il doit être exclu? Comme le dit Marine Le Pen, elle dit qu'il faut l'exclure. Alors, est-ce qu'il a toute sa place quand on entend, quand on voit tout ça, encore, évidemment, au sein de l'Assemblée, au sein de l'hémicycle? Philippe Nadji Boyaki.
Tant qu'il n'est pas condamné.
Principe, allez, présomption d'innocence. La loi, que la loi reste la loi.
La loi française.
Vous vous mouillez pas.
Mais non,
non. Tant qu'il n'est pas condamné. Alors, d'ailleurs, je trouve que Marine Le Pen est quand même, Philippe a raison, Marine Le Pen est quand même gonflée. Oui. Parce que son député, qui a tenu des propos racistes, qui sont un délit et non pas une opinion, dans une Assemblée nationale, elle était quand même beaucoup plus clémente. Donc à un moment donné, il faut arrêter de vouloir donner des leçons aux autres quand on n'a pas balayé devant sa porte. Et moi je le dis, le droit doit s'appliquer de la même façon. Donc si Quatrenin est condamné, il peut être suspendu en attendant le jugement de ça. S'il est condamné, s'il est avéré, je ne doute pas des propos de sa femme, s'il est condamné et avéré, c'est effectivement compliqué pour lui de rester député à l'Assemblée nationale ou d'aller. Maintenant, tant que moi je n'ai pas à douter, mais soit on respecte le droit et on l'applique. Et donc la présomption d'innocence vaut pour tout le monde, les accusations prises et que on attend le jugement. Moi, je voudrais qu'effectivement cette personne soit jugée, mais que lui et d'autres qui aujourd'hui ont été des trucs et qu'on n'entend plus l'affaire.
Donc il peut venir continuer tranquillement, sereinement,
comme Julien Bayou,
pas sereinement.
Nadil, vous savez bien qu'il ne peut pas le faire sereinement. J'ai dit qu'on pouvait suspendre, il pouvait suspendre. Il ne le fera pas sereinement parce que tout le monde va l'attaquer là-dessus. Donc c'est à lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le droit, tant que vous n'êtes pas condamné, ou alors on change le droit, et pour lui exceptionnellement, ou on a les mêmes droits pour tous. C'est ça que je suis en train de dire. Moi je ne défends pas, je dis qu'effectivement il faut être ferme et il faut l'exemplarité. Maintenant, si effectivement, lui, il sait ce qui s'est passé, si lui, il sait que c'est avéré, autant qu'il soit tout de suite.
Il nie le dernier truc. Hein.
Tant que vous, Adil, là, donc on fait Adil en droit, une démocratie, c'est le droit. C'est pas nos préjugés, ou nos populismes, ou nos sentiments d'âme, ou aujourd'hui j'ai décidé qu'un tel était coupable à la vindicte populaire, c'est pas le tribunal populaire, c'est le droit, il faut que le droit passe, et il y en a qui sont pas jugés là pour ça. Et moi je dis justement, je dénonce aussi le fait que certains ne sont pas jugés. Et je dis, le droit doit s'appliquer de la même façon pour tous. Soit on est dans le droit, soit on est dans autre chose. Moi je reste dans le cadre du droit. Après je peux avoir mes préjugés, mes représentations, mais c'est pas mes états d'âme. Qui font avancer le droit français.
Deux choses.
Jimmy Dalidou.
Trois choses. D'abord, je pense que ce qui doit faire fonctionner la justice, effectivement, c'est pas l'émotionnel, c'est le rationnel. Déjà la première chose. Et ensuite, la justice, il faut qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle démontre que la justice en France reste une justice rationnelle, de raison, neutre, et qu'elle n'est pas une justice de classe et qu'elle met pas en pratique une justice dirigée par les politiques. Je compte sur elle pour le faire, parce que après les gilets jaunes, etc., on a vu parfois elle se présentait plutôt comme une justice de classe. Donc il faut qu'elle fonctionne d'une manière convenable, rationnelle, justice de raison, puisqu'apparemment ce serait une justice de raison. Ensuite, il faut, présomption. Troisième chose, la présomption d'innocence, c'est important ça, parce que admettons que demain un patron...
C'est dans les institutions.
Admettons que demain un patron porte un faux témoignage sur un de ses salariés et qui dit, je sais pas, un truc au hasard, je sais pas, mon salarié, il a frappé quelqu'un, il a volé dans mon entreprise,
ouais.
et ça reste un soupçon. Mais il est toujours, tant qu'il n'est pas condamné, il n'y a pas de preuve. Il faut étendre cette logique à tous les niveaux. Donc, M. Katnas, il a encore sa place dans l'hémicycle, indépendamment de ce que disent des personnalités farfelues du genre Madame Le Pen.
Donc, un avenir politique qui n'est pas compromis, Aklim Mellouli.
Il est compromis, je crois. Voilà une vraie question. Adil, je sais que vous posez toujours des vraies questions, mais c'est deux questions différentes. Vous me parlez du droit, à un moment donné, vous parlez du droit.
Comme je vois répondre là-dessus, voilà. Je vous pose la question sur son avenir politique.
Je ne suis pas Madame Irma, les électeurs déjà, mais je ne suis pas Madame Irma, mais je crois que son avenir politique s'est assombri. Mais je ne suis pas Madame Irma. Mais je suis pas voyant ni voyante, mais je pense que on a compris qu'il était assombri. Adil, on a vu la curée, donc on a bien compris que son avenir politique est quand même bien assombri quand même. Il a un ciel gris devant lui. Même si je suis pas Monsieur Météo.
Monsieur Katnins était particulièrement performant dans ses passages médiatiques. Il était particulièrement performant dans la ligne politique qu'il défendait. Alors même si je suis pas d'accord avec la ligne politique de LFI, mais qu'il était particulièrement performant dans la oratoire et tout le monde a bien vu qu'il se présentait plutôt comme le successeur de Jean-Luc Mélenchon, c'était quasiment un jeu d'avance. Ouais. Et comme par hasard, vous avez des témoignages qui débarquent, c'est comme à l'époque de monsieur Strauss-Kahn, avant même qu'il soit présent candidat à l'élection présidentielle, on sait que beaucoup de Français allaient voter pour lui et comme par hasard vous avez des personnes qui débarquent, qui portent des témoignages. Alors encore une fois, si elles sont coupables, si ces personnalités, encore une fois, s'ils sont coupables, ils sont coupables. Mais c'est bizarre.
En politique, tant que t'es pas mort physiquement, t'es pas mort. Parce qu'il peut y avoir des rebondissements. J'en suis la preuve vivante. Il y a un an,
il y a des nuages.
Non, quand il y a des nuages, il y a un an, moi c'était pas des nuages. Il y avait un trou. J'étais au fond du trou. On était en train de mettre les pelletés sur ma tête. Entre-temps, la justice est passée, c'est pas le même temps, le temps de l'émotion médiatique et le temps de la justice est passée, a condamné Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs ils ont toujours pas payé, donc là on va les assigner pour leur dire maintenant 150 euros par jour de retard, ça va, il y a des fêtes de fin d'année, donc c'est normal, et donc la justice m'a donné raison, donc laissons le temps au temps, comme disait bien Aklim Mellouli, le temps est l'ami du juste, mais je vois qu'il y a en tout cas quelque chose de disproportionné entre Adrien Quatennens et Julien Bayou. Alors, se situe où, là? C'est quoi son discours Europe, schizophrénie, les Verts? Elle est là, la réalité. Donc, d'un côté, vous avez des écolo-opportunistes et des escrologistes, et d'autres, vous avez un tribunal populaire décidé par les médias qui alimente pour faire le buzz et pour pouvoir faire vendre du papier. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais sujets qui concernent les Français et les Françaises.
Eh ben, autre sujet qui nous intéresse, vous savez, c'est la députée et les filles, toujours, et les filles. On est dans le même registre. Hein. Rachel Keke, qui a tenté d'empêcher l'expulsion d'un clandestin ivoirien délinquant multirécidiviste lié à la mouvance islamique. Alors un autre débat, évidemment, qui continue de faire un véritable sujet d'échange, je vois, sur les réseaux sociaux. Parlons-en justement. Aklim Mellouli.
Alors, moi déjà, je voudrais juste...
planter le décor. Voilà, le 14 novembre, la députée LFI, Rachel Keke, s'est rendue au centre de rétention, le CRA, ce qu'on appelle, de plaisir, pour apporter son soutien à un ressortissant ivoirien qui s'appelle Monsieur Mousse B, sur le point d'être expulsé dans son pays.
Voilà. Il est déjà, je crois qu'il est déjà dans son pays. C'est pour ça qu'il a. Alors, je ne sais pas si où ça en est cette histoire, mais au-delà de l'affaire, par rapport à Rachel Keke, moi, j'ai pas à voir. C'est pas quelqu'un que je connais ou j'apprécie, mais elle est députée, qu'elle soit insoumise ou pas, c'est pas le problème. Elle est députée. Et le traitement qui lui a été fait sur CNews, qui l'a renvoyé à son origine, à la situation raciale.
Ah oui, je voudrais revenir sur cette vidéo. Anthony va essayer de nous retrouver cette vidéo.
Juste à dire quand même, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on oublie ça, la banalisation des thèses du Front National. Et cette personne a été assignée à résidence dans son identité. C'est-à-dire qu'on l'a renvoyée à sa condition de femme de ménage, etc. Et on ne l'a pas traitée comme une élue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée au centre de rétention, vous savez qu'ils l'ont fait attendre comme une malpropre, comme si qu'elle n'était pas députée de la République. Elle est Rachel députée Keke. De la République. Elle doit avoir les mêmes, elle doit être traitée comme tous les autres députés. Et ça, c'est ça. Et c'est ça. Là, je suis indigné.
Vous faites référence de la manière dont on a traité le sujet.
Oui, tout à fait.
De la députée Rachel Keke sur CNews.
Sur CNews. Bien sûr, sur CNews et sur d'autres, d'ailleurs. Parce que si on laisse passer ça,
Eh bien, on est complice de ces gens-là. Et on banalise ces théories, et on s'étonnera pas d'avoir le Front National au pouvoir un jour et d'ouvrir les portes. Parce que, moi, ce qui me gêne, c'est pas ceux qui portent ces théories, parce qu'on les connaît, on les combat. C'est tous ceux qui, dans leur silence, ou tous ceux qui ne sont pas au Rassemblement National, mais qui, dans leur silence ou dans leurs interventions, banalisent ces théories, banalisent ces idées-là, et qui les diffusent dans la société française, qui sont les grands complices, et qui sont encore... C'est eux que j'accable le plus que ceux qui connaissent les combats et qu'on mène.
Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites sur évidemment que la députée LFI Rachel Keke a tenté d'empêcher cette expulsion?
Non, mais elle a le droit d'empêcher si elle pense que il y a un complément à voir. Il faut cette personne, je pense qu'elle a dû être condamnée, qu'elle a dû payer sa qu'elle a sa peine. Il y a peu de double peine en France. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent ressortir la double peine. Il faut arrêter avec ces doubles peines. Et moi, je ne connais pas, je n'ai pas à défendre tel ou tel. Moi, je veux que la justice s'applique de la même façon. On le disait avant pour d'autres sujets, et je crois que pour lui aussi, ça vaut de la même façon. S'il a une famille, s'il a construit, il a peut-être plus lien avec le pays d'origine. Vous savez qu'il y a des pays d'origine qui refusent de les accueillir parce que du coup, ils se deviennent des gens qui sont en souffrance là-bas et qui créent de la souffrance dans leur famille. Il faut quand même être humain dans ces traitements. Il faut quand même regarder. Si les gens, il y a des prisons, il y a des sanctions, il y a des gens qui payent leur... Quand ils ont payé leur peine, ils n'ont pas à avoir de double peine. Et ça, c'est pas normal. Moi, je suis contre les doubles peines et je l'assume.
Bon, alors, effectivement, je vois que ça fait débat. Philippe Nadji Bouyek.
Ah non, moi, je suis pour... vous venez en France, vous êtes accueillis dans notre pays. Si vous comportez mal, vous repartez. Point. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Et c'est pas être raciste que de dire cela, parce que ces gens-là, ils nous portent préjudice à nous. Et après, nous, on nous demande de nous intégrer alors qu'on n'a pas à être intégré et qu'on est français. Point. Donc, si t'es un étranger,
aussi, tu viens tout.
Non,
il n'est pas étranger. Il était résident, Philippe. Il a été emprisonné. Je crois que d'après ce que j'ai pu lire, il a eu sa peine, etc. Et là, on veut l'expulser en double peine.
Il est âgé de 38 ans. Il est arrivé régulièrement en France à l'âge de 4 ans au titre de regroupement familial.
Oui, il a grandi ici.
Avec un long parcours de délinquant, d'après les informations que j'ai. Et puis, il a eu des déboires avec la police et la justice dans les années 90. Et très vite, il est rattrapé par la justice et condamné à de multiples reprises entre 2003 et 2021,
ça,
notamment sur des faits de port, d'armes, d'association de
malveillants. Il n'a pas la nationalité française.
Oui, mais même, il est résident. Il est arrivé à 4 ans.
Non, mais il n'a rien à voir entre la nationalité et la résidence, c'est le fait, c'est l'endroit où tu résides. Mais il n'est pas français. Non, mais attends, il n'est pas français. Donc il est accueilli dans un pays, il se comporte mal dans ce pays. Merci, au revoir, monsieur.
Donc, qu'est-ce que vous dites sur Rachel Keke, la députée?
Non, par contre, non, mais. Elle est députée de la République. Les députés peuvent rentrer dans les centres de rétention et dans les prisons pour visiter.
Ils l'ont fait poireauter, Adil.
Moi, j'ai vu la vidéo. Ça, c'était pas cool. Elle a dû présenter sa carte. En fait, il y a un responsable qui est arrivé. Et visiblement, d'après mes informations, celui qui était à l'entrée, c'était un jeune bleu, un jeune stagiaire qui avait pas toutes ces informations. Parce que moi, si j'y vais devant un centre de rétention, je peux pas rentrer en tant que conseiller régional. J'ai pas le droit. Par contre, un député, un sénateur.
Bah, il fait son boulot.
Non, mais je dis pas le contraire. Je dis juste qu'un député, un sénateur, il a le droit de rentrer. C'est la loi, c'est une obligation. D'ailleurs, il peut venir à n'importe quel moment et t'es obligé de laisser rentrer. Par contre, on connaît le traitement CNews.
Le traitement CNews, vous savez quoi? Anthony nous a retrouvé la vidéo. Vas-y. On marque une pause, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Sujet sensible.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
19h18, dernière ligne droite avec Akli Melouli, avec Philippe Nadji Bouyaki. Et enfin, Les Informés, c'est aussi avec Jimmy Dalidou. Anthony a retrouvé cet extrait d'échange de la députée Rachel Keke avec visiblement le personnel donc de l'administration pénitentiaire. C'était une vidéo diffusée sur CNews, la suite de la polémique autour de la députée, donc Rachel Keke, qui a visité et pris la défense d'un homme ivoirien ayant une OQTF. Écoutons.
On est devant le centre de rétention administratif.
Je connais pas mes droits, je me pointe pas là.
Pour mousbler.
Je me pointe là, c'est que je connais mes droits. Voilà. Je ne suis pas les gens, monsieur.
Monsieur, vous êtes un policier, si je veux vous filmer, je vous filme.
Non,
vous n'avez pas de problème. Eh bien, portez plainte contre moi. Non, portez plainte contre moi.
Je suis en papa des gens. Voilà, je ne suis pas des gens.
On parle de citoyens, de manière générale. Puis là, en l'occurrence, vous avez en face de vous. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Merci. Donc, vous avez en face de vous, effectivement, une élue. Donc, l'élue en question, Mme Keke, qui est à côté de moi, elle s'adapte un petit peu, effectivement, à l'accueil que vous lui avez réservée.
Attends, mais je vais le dire.
D'entrée de jeu, elle sonne. Elle pas fait venir, et voilà, en fait, on l'envoie un petit peu voir ailleurs. Et puis après, vous venez ici. Elle vous montre sa carte professionnelle.
Un maximum de partage, s'il vous plaît.
Et là, en fait, vous exécutez. Attends, ici, moi, s'il vous plaît. Elle montre sa carte professionnelle, monsieur. C'est sa carte professionnelle. Et elle vous montre.
Allez, demandez aux députés. Ils vont vous montrer une carte professionnelle, s'il vous plaît.
Là, votre carte, elle a
déjà demandé. Je vous montre ça, monsieur.
Vous allez rentrer,
madame. Ça, j'ai pas volé.
Heureusement, on va rentrer. On est en France.
Non, c'est fini. Moi, je veux rentrer.
Heureusement, non.
Je connais mon droit. Je ne donne pas mes droits, je ne rentre pas ici. Venez, madame. Je vais voir Mousse Blé, je viens, je vais voir les autres.
Venez, madame.
Montrez-vous quatre, s'il n'y a que quatre personnes.
Je verrai comment vous
travaillez. Non, non, non. Vas-y, vas-y,
qu'est-ce que vous dénoncez dans cette vidéo à Clé Mélodie, diffusée sur CNews? L'échange entre la députée Rachel Keke et l'administration pénitentiaire. Je distribue la preuve. Important juste, ce qui se passe
oui,
là.
Oui, ben oui, juste le traitement, c'est une députée. Elle doit être accueillie comme une députée. Elle peut rentrer. On doit la laisser faire son travail. C'est ce que je dis juste. Je dis que c'est ce que moi, ce qui me gêne, c'est qu'on l'a assignée à résidence. On l'a passée à l'accent, sa condition de femme de ménage, de loi, tout ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on laisse passer. Le reste, c'est son combat, c'est son droit. À un moment donné, en démocratie, on a le droit de défendre. Hein. Ça fait partie du droit. Hein. Et donc, je pense que là, ce que je dénonce, c'est le traitement qu'elle a eu, c'est tout. Après, personne ne serait resté. Elle a attendu, comme on l'a fait attendre comme n'importe qui.
Ouais, alors, je pense que le problème qui se pose, c'est que, et oui, effectivement, Rachel Keke est une des rares femmes issues de la classe ouvrière qui a été élue députée. Et donc, forcément, elle n'a pas le droit au même traitement que les autres, en fait. Vous voyez? Parce qu'en fait, quand vous êtes issu de la classe dominante bourgeoise, forcément, vous avez tous les meilleurs traitements du monde. Mais lorsque vous avez fait le ménage dans un hôtel ou je ne sais où, ou vous avez fait de la cuisine ou autre chose, forcément, vous avez le droit aux foudres de la bourgeoisie monopoliste organisée, qui est organisée au niveau des médias comme CNews.
Mais là, c'est l'administration pénitentiaire, là.
Ressemble plus à elle n'a pas affaire à la bourgeoisie, là. Par les médias qui ressemblent plus à des organes d'agitation propagande plus qu'autre chose. Non, mais je voudrais aussi rajouter un truc, c'est qu'effectivement, là où elle n'a pas été aidée, malheureusement, c'est certains personnages comme Adama Traoré, je crois, qui a dit que l'État était islamophobe. Franchement, je pense pas que ce soit la meilleure ligne de défense. Pourquoi? Parce que je pense pas que ce soit vrai. Et connaissez mon avis. Hein. L'État, pour moi, c'est un organe de domination et d'oppression d'une classe sur une autre. C'est d'abord, il faut d'abord analyser ces différents éléments, ces différents événements à travers le prisme de la lutte des classes, indépendamment des origines ethniques, sociales, religieuses, en fait. L'État, il s'en fout de... En fait, l'État, ce qu'il veut, c'est que vous allez travailler, que vous fassiez du profit pour le patronat, et que vous la fermez, et que vous êtes un bon mouton qui travaille bien, après, à partir de là, que vous soyez chrétien, musulman, il s'en fout, lui. Donc, finalement, ça c'est ce qui est dangereux avec ces propos qui consistent à dire que l'État est islamophobe, c'est que ça permet d'orienter la conscience vers une lutte qui est irrationnelle, en fait. Et alors que la véritable lutte, elle est là, c'est que l'État représente une classe dominante, indépendamment de la religion, une classe dominante, propriétaire des moyens de production, qui enrichit toujours plus les plus riches, indépendamment des... Ça n'a rien à voir, ça. La laïcité, elle fonctionne quand même un minimum en France, ça c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Elle fonctionne un minima. Un minima. Et franchement, ces propos n'ont pas permis d'aider Madame Keke, qui à la base... était partie sur une bonne... Elle voulait défendre quelqu'un qui est en galère, qu'en fait, indépendamment de son origine, en fait.
Philippe Nagy Boyaki.
Non, mais il y a des lois en France, un député, un sénateur, un parlementaire, donc... ou une députée ou une sénatrice, parce que comme ça les féministes ne vont pas me casser la tête, a le droit de rentrer dans un centre de rétention ou dans des milieux carcérales, les établissements pénitentiaires. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'instrumentalisation et surtout les combats inutiles. Je ne pense pas que ça sert la cause de toutes celles et tous ceux qui vivent en France et qui en ont marre d'être stigmatisés parce que il y a un racisme latent qui est en train de prendre le contrôle de ce pays via différents organes.
Le fascisme, pas dit fascisme, dit le mot comme racisme. Il est. C'est une montée du fascisme aussi. C'est une montée du fascisme.
Non, le
racisme, c'est un élément déterminant du fascisme, mais c'est bien plus complexe que ça.
Je t'ai pas interrompu.
Il y a une montée du fascisme.
Je t'ai pas interrompu. Il y a une montée, en tout cas, du racisme, ça c'est un fait. Souvent, ces racistes sont des xénophobes, des fascistes, des nazis, des tout ce que tu veux, de manière abjecte. Ils sont, de toute façon, c'est les mêmes copains, c'est les mêmes potes. Et d'aller défendre un type, je viens de regarder, il a été condamné 20 fois, condamné 20 fois depuis 2001. Ça va, on peut pas aller défendre un mec comme ça. On peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Que le mec soit condamné une fois qu'il a trébuché, qu'il soit condamné deux fois, qu'on mette en place des systèmes d'insertion, machin. Moi, je suis pour la rédemption. Sérieusement, je dû à mes convictions philosophiques, religieuses, etc. Je pense qu'on peut avoir des chemins de vie chaotiques, cabossés, et que tu es imprégné de ce que tu as vécu, et du coup tu te rends compte de tes erreurs et tu payes ta peine. Donc, parce que moi je pense aussi aux victimes, parce que 20 fois, c'est-à-dire qu'il y a eu 20 victimes. Et tu vois, quand on parle de ces gens-là, jamais on a une pensée pour les victimes. Et ça, c'est des victimes connues. On n'a pas, et je suppute pas, mais en tout cas, il y a des victimes qui ne disent rien, qui se taisent et qui souffrent en silence. Et qu'est-ce qu'on leur envoie comme message? Aller soutenir un mec comme ça, c'est juste pas possible. Mmh. C'est en cela que je dis, nous, ces gens-là, et moi, pourtant, je suis issu d'origine et je suis né en Algérie, donc je suis devenu français, machin, etc. Et je suis pas plus français qu'un français, je suis pas plus blanc qu'un homme blanc. Je dis que ces gens-là, ils nous portent préjudice à nous, les premiers. Donc, nous, on devrait se lever à un moment donné et dire, et toi, tu dégages. Mmh. Tu dégages parce que t'es en train de me pourrir ma vie. T'es en train de pourrir notre vie.
Des propos durs que vous tenez, qui parfois peuvent
parce que j'en ai marre
de certains de nos auditeurs.
Mais non, mais je veux dire à ces auditeurs qui m'écoutent, on est stigmatisé parce qu'il y a une minorité qui fait chier donc la terre
toi,
entière.
Pour toi, il aurait dû rentrer chez lui en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on est en train de
dire.
Mais certains vous diront, certains vont rétorquer.
Il est pas français.
Certains vont rétorquer, vont dire je suis chez moi en France.
Bah non, lui, il n'est pas français. Tu sais pourquoi ? Lui, en l'occurrence, il n'est pas français.
C'est comme l'affaire
avec Kusem. Indépendamment de son origine.
Mais avec Kusem, il n'est pas français non plus.
Tu sais bien que ce qui génère ce type de comportement, c'est aussi quoi qu'on
en dise. Dans un autre registre.
Je ne veux pas rentrer dans mon angélisme de balle. C'est aussi la misère sociale.
Allez, messieurs, oui, c'est vrai. Les JO 2024, parce qu'il y a un sujet. S'il vous plaît. Gérard Darmanin veut doubler le nombre de forces de l'ordre, parce que je veux absolument qu'on traite ce dernier sujet dans les transports en commun. Il est en train de préparer les JO 2024. Je voudrais un tour de table. Acclimé Loulis, s'il vous plaît.
Alors, moi, je veux dire qu'on est habitué aux effets d'annonce. Le problème, c'est. Il dit qu'il va augmenter les effectifs. La question, c'est de savoir si c'est un redéploiement, parce que ça veut dire que ces effectifs qui seront là seront pas ailleurs, ce qui va encore générer des confusions dans l'esprit des gens. Et en fait, c'est ça qui fait monter le fascisme et le racisme, c'est les effets d'annonce, le populisme, sans suivi de stratégie. La question, c'est quelle stratégie? Est-ce qu'il veut créer du tout répressif, ou est-ce qu'il veut créer de la prévention? Parce que se pose la question, le problème, c'est pas que de la police, c'est aussi d'éducation populaire, c'est aussi des gens. À un moment donné, on peut pas être que dans le répressif. Donc c'est un dispositif global qu'il faut avoir pendant les jeux. Bien sûr qu'il faudra renforcer pour protéger les gens qui vont venir, etc. Mais il y a des médiateurs, il y a
d'autres choses. Deux fois plus.
Oui, mais ils sont deux fois plus. Actuellement, ils ont réduit. Mais l'effet d'annonce, il faut qu'il nous explique quelle est sa stratégie.
Les effectifs passeront de 1675 policiers et gendarmes à 3510. Détail le ministre.
On est d'accord, je finis. Adil, c'est même pas. La question. Non, mais la question, c'est pour quelle stratégie? Quelle stratégie? Parce que on peut très bien aussi mettre des médiateurs, des accompagnants, on peut mettre des animations, on peut créer de la vie. Dans les JO, il faudra créer.
Rapidement, s'il vous plaît. Je dois rendre l'antenne.
Les flics sont, enfin, selon Monsieur Darmanin, c'est des gremlins, en fait. Vous leur donnez à manger après minuit, et se multiplient tout seuls. Je vous rappellerai que là, ils parlent des transports, et les transports, ça fait des années qu'ils ont supprimé les cheminots de la police ferroviaire, les policiers de la SUCH qui étaient spécialistes dans la sécurité des transports, ils ont supprimé des postes. Donc là, il est en train de nous dire qu'il va étendre des policiers. En plus, c'est des policiers de réserve, formés en 10 jours.
Philippe, en quelques jours,
c'est pas suffisant. Bilal. Moi, je dis, c'est pas suffisant. Il en faudrait 3 fois plus.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Philippe Nadjiboyaki. Le conseiller régional.
Et je m'excuse pour ceux que j'aurais pu choquer.
Absolument. Acclimé Lully, maire adjoint sur Bonneuil-sur-Marne, merci.
Merci Adil, j'ai toujours pas changé d'avis, je suis contre les doubles peines, par nature.
Mais on a bien compris, on l'aura compris. Merci à Jimmy Dalidou, représentant CGT, mais bisous, également aussi, bisous. Il est auteur. Bilal Lenman, bonsoir. Émission qui démarre à 19h30, vous le savez, on vous fait vivre la Coupe du Monde du Qatar. Ça. Et ça se passe dans Time Sport. Bonsoir, mon
bonsoir
cher Bilal.
Bonsoir à tous.
Quel
bonsoir
est le programme de Jimmy, la Coupe bonsoir. Du Monde au Qatar? Time Sport, on démarre tous les soirs à 19h30.
C'est ça, 19h30 chaque soir sur l'antenne de
Alors, on vous écoute, quel est le sommaire?
On va revenir sur le match hier soir avec la Belgique face au Canada et ça passe. C'est in extremis. Le Cameroun, c'est dommage, c'est faible. On verra bien sur cette sélection camerounaise. Sans oublier aussi la chronique avec Abdel, notre consultant, sur les pépites du football. Mais là, pas que. On passera du côté du Qatar pour savoir, justement, pour connaître les vraies pépites, la jeunesse quoi, du football mondial. Mmh. Et ensuite, on parlera de CR7 avec le Portugal face au Ghana. 3 buts à 2.
Cristiano Ronaldo qui va l'être encore durant cette Coupe du Monde.
C'est le seul joueur qui a marqué dans les 5 sur 5 Coupes du Monde.
Je voudrais avoir une confirmation Bilal. C'est vrai qu'il est, il est plus sous contrat avec Manchester et donc il est libre.
Sous contrat.
Marseille.
Le Paris Saint-Germain.
Il ira à Nice. On te retrouve juste là dans 2 minutes. De suite, Bilal Lendman jusqu'à 21h et ensuite Vanessa à 21h. Merci Antonin, Anthony. À demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Jamais à demi. Ouais.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.